Marcos, une émission proposée par Michel Niaille.
Chers amis de FM+, bonjour. Ce m'est l'occasion en ce début d'année avec la reprise des émissions Laïcos de vous dire tous mes vœux pour chacun et chacune d'entre vous et l'espoir que nous allons bientôt sortir de cette situation évidemment terrible de l'épidémie et que nous allons pouvoir nous rencontrer de manière un peu plus libre, un peu plus ouverte que nous ne pouvons le faire aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez peut-être que lors de la dernière émission de 2020, j'avais traité de la partie gauche, à la fois de l'électorat et des partis, devant la loi de 1905, et notamment au moment du vote de la loi où nous avons vu comment la compétition entre la gauche et l'extrême gauche portait des projets tout à fait différents en matière d'élaboration de la nouvelle loi. Eh bien, il faut aujourd'hui pencher la balance de l'autre côté, et ce sont là et les droites en France à ce moment-là et aujourd'hui que nous allons essayer de traiter face au principe de la laïcité. Alors, commençons par un premier point, qui est de rappeler que les forces politiques les plus conservatrices ou les plus traditionalistes se sont organisées à partir de la Révolution française. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de droite et de gauche, parce que c'est la manière dont les députés à la future Assemblée nationale, au début, c'est l'Assemblée des États généraux, s'assied dans l'hémicycle face au président. Ceux qui se mettent à la gauche du président, c'est ceux qui sont pour un ordre nouveau, pour le changement. Et puis ceux qui se mettent à droite, c'est ceux qui veulent rester dans la tradition et veulent conserver le système monarchique. Et donc, droite et gauche sont un clivage physique dans l'Assemblée qui traduit deux positions, je dirais conservatrices ou au contraire très ouvertes et progressistes de notre échiquier politique. Et depuis 200 ans, cette dénomination a été conservée et on continue à parler de gauche et de droite. Alors à droite s'assied donc les curés, les évêques, les seigneurs, les nobles qui voient dans les événements de mai 1789 quelque chose d'assez dramatique parce qu'on n'avait pas réuni depuis plus de 100 ans les États généraux et on sent bien qu'il y a un vent de fronde qui circule dans le pays après la rédaction de cahiers de doléances qui ont égrené toutes les difficultés et surtout toutes les critiques que l'on pouvait développer à propos du système monarchique. Alors, à droite, nous avons bien sûr donc les conservateurs, les nobles, qui veulent surtout ne rien lâcher de leurs privilèges, et nous avons pratiquement tout le haut clergé, les évêques, les archevêques, les responsables des grandes institutions, notamment des couvents, mais aussi le petit peuple des curés qui a été élu et qui, évidemment, penche plutôt du côté de sa hiérarchie. Cette droite, donc composite, elle est favorable, évidemment, à l'Église et au maintien du statut privilégié de l'Église qui, depuis des siècles, a organisé la société française. Ce sont donc des adversaires de ce qu'aujourd'hui on appellerait la laïcité et qu'à l'époque on peut appeler de la liberté trop généreusement accordée. Ils craignent qu'à travers un régime de liberté, les principes les plus sacrés se volatilisent. Ils craignent évidemment que la structure même d'organisation de la société s'écroule et que, en quelque sorte, ça soit la fin, sinon du monde, en tout cas de ce monde-là du XVIIIe siècle. On voit bien qu'ils ont des arguments. L'argument premier, c'est bien sûr le respect des grands principes que l'Église continue de développer au nom de la tradition continue depuis le premier pape. C'est l'idée d'une sorte de morale publique qui ne peut tenir que parce qu'elle est encadrée par l'Église. N'oubliez pas qu'on compte non plus en communes, comme on le ferait aujourd'hui, les 36 000 communes, mais en paroisses, et c'est à peu près le même chiffre, 36 000 paroisses, qui constituent une sorte de maillage très serré de contrôle possible, avec évidemment des différences très fortes suivant les lieux, mais un maillage très serré de contrôle des populations, puisque à la fois les dimanches, les messes, les fêtes, les obligations dues à l'égard de l'Église permettent d'éviter que des courants, disons, séparatistes du point de vue religieux, on pense évidemment aux protestants et aux juifs, mais également à ces fameux libres-penseurs qui, depuis le milieu du XVIIIe siècle, constitue une nouvelle intelligentsia qui pense avec Voltaire, avec Rousseau et déjà avec Montesquieu que la liberté est un bien pour chacun d'entre nous. Cette Église et cette droite, elle est aussi favorable à l'idée que notre civilisation, notre culture, et déjà, vous le voyez, ce sont des termes d'aujourd'hui, doivent beaucoup au christianisme et que, selon une tradition qui n'est pas si ancienne, elle remonte à Henri IV, l'Église de France est la fille aînée de l'Église universelle catholique. Et que donc, il y a une tradition civilisatrice que aucune révolution ne devrait mettre en péril. Et puis, il y a aussi l'idée que l'Église et la foi catholique permettent d'encadrer les générations, permettent d'encadrer les familles dans une époque où les relations quelquefois conjugales et extra-conjugales sont plus libres qu'on ne croit, dans la formation des jeunes. Et n'oublions pas que toutes les écoles de base sont des écoles tenues par les prêtres et par l'Église catholique. Et les écoles supérieures, ce qui deviendra plus tard le collège et le lycée, est tenu par les jésuites, qui eux ambitionnent de former l'élite de la nation. Donc, si vous voulez, la droite dans notre pays, la droite liée à l'Église catholique, elle est forcément très conservatrice et opposée à l'idée que la liberté, notamment en choix religieux, puisse exister. Ceci dès le XVIIIe siècle, où on voit comment l'Église combat les nouvelles formes de pensée, de ce qu'on appellera plus tard les libres penseurs, c'est-à-dire qui pensent librement par rapport au contexte religieux. Et puis pendant toute la Révolution, la vieille droite monarchiste et catholique va tenir cette attitude qui va traverser toute la Révolution avec des hauts et des bas, avec le sentiment qu'il faut utiliser tous les moyens et n'oubliez pas la guerre des Chouans, tant pis s'il faut armer les paysans pour lutter pour le retour du roi et de la Sainte Église. Et cela va continuer pendant tout le XIXe siècle où la droite politique est en même temps liée à l'Église catholique. Et en effet, après la période de Napoléon, qui est un peu plus compliquée sous cet angle-là, le retour des rois, Louis XVIII, Charles X et même Louis-Philippe, coïncide avec un retour de la religion, le retour du blasphème comme délit puni par l'État, le retour de l'interdiction du divorce comme un scandale pour l'Église catholique, le retour à la formation des enfants par les prêtres et l'Église catholique. Bref, tout le XIXe siècle, au moins débutant, est un siècle marqué par cette vieille droite anti-liberté et donc forcément, alors que le mot n'existe pas, anti-laïcité. Et c'est précisément cette droite qui va se survivre pendant tout le XIXe siècle, qui va achoper à la fin du XIXe siècle parce que la revendication d'autonomie, de liberté, de choix donné aux individus de croire ou de ne pas croire devient de plus en plus prégnante. Et on le voit par contre-coup, et vous pouvez, vous, Montpelliérain, le voir dans la ville de Montpellier, mais dans la plupart des villes de France, le nombre d'actes religieux développés par l'Église catholique de manière symbolique pour remarquer le territoire de manière catholique avec ces grandes croix. Vous en avez une à côté du Pérou, vous en avez une en bas, au bas de la colline vers la place Lessac. Et lisez ce qui est inscrit sur le socle de ces immenses croix qu'on ne peut pas ne pas voir. C'est une sorte de grande action menée par l'évêque local ici de Montpellier pour rappeler au peuple la nécessité de revenir à la Sainte Église. Autrement dit, dans les années 1850, 1860, jusqu'en 1880 au moins, on voit comment l'Église réagit parce qu'elle sent bien qu'elle perd du terrain. Et donc, on comprend que la vieille droite, les conservateurs anti-républicains, mais même pour certains républicains, pensent qu'il n'est pas possible d'avoir la liberté totale en matière de choix religieux et qu'il faut conserver cette présence et cette prégnance de l'Église catholique dans la structuration même de la société française. La fin du XIXe siècle annonce évidemment, on le verra, par étapes, la laïcisation de la France. Ça n'a pas commencé en 1905. 1905 est au contraire un aboutissement d'une certaine manière. Dès que les Républicains ont gagné les élections en 1880, va commencer une série de lois qui laïcisent la société française avec d'abord l'école, c'est ce à quoi on pense immédiatement, mais également un certain nombre d'autres institutions, le rétablissement du divorce, la fin du blasphème avec la loi sur la presse, la loi sur les associations et la vis serrée à l'égard des congrégations, etc. De sorte que la loi qui porte la laïcité en 1905 est en fond un peu l'aboutissement de toute une série pendant 25 ans de lois qui élargissent les libertés en matière religieuse. Évidemment, ces lois de 1880 jusqu'en 1905, elles sont portées par qui ? Eh bien, par la gauche, on l'a vu la dernière fois, la gauche et l'extrême gauche, qui pour des raisons différentes veulent établir la liberté, y compris dans le domaine qui paraissait le plus lui échapper, et qui est le domaine de la croyance. Pourtant, après 1905, d'abord, l'Église catholique doit se rendre à l'idée que ce qu'elle craignait s'est accompli, même si elle va batailler jusqu'en 1924, puisqu'elle refuse d'appliquer la loi de 1905 et qu'on est obligé d'inventer des associations particulières qu'on appelle les associations diocésaines, et qui fait que l'Église catholique, à l'inverse des protestants, des juifs, aujourd'hui des musulmans, n'applique pas la loi de 1905. Elle a obtenu, non pas une loi d'ailleurs, mais un arrangement négocié diplomatiquement entre le Vatican et le gouvernement français pour avoir sa propre structure. Mais disons que la guerre de 14 y est pour beaucoup, une sorte de paix civile s'instaure entre, comme le disait le poète, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Et donc, on peut dire que le seul point de friction qui va se développer, c'est celui de l'école à partir de 1920-1930, la guerre des deux Frances, qui ne trouvera pas de conclusion et nous aurons l'occasion dans une prochaine émission de parler justement de l'école et de la laïcité. On pourrait dire que la droite maintient pendant toute cette période d'après 1905 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, cette position de critique à l'égard de la laïcité, ayant accepté du bout des lèvres la laïcité, mais ayant bataillé pour que on puisse quand même redonner à l'Église la place qu'elle avait perdue. C'est très important de comprendre que, mis à part une toute petite partie que seront les chrétiens sociaux au sein de la droite traditionnelle, la droite traditionnelle, et elle dure pendant tout ce siècle du XXe siècle, elle n'est pas favorable, disons, à la laïcité. Les seuls partis que l'on peut classer à droite après la Deuxième Guerre mondiale sont des partis de chrétiens sociaux. Et l'exemple le plus typique, c'est le MRP, le Mouvement Républicain Populaire, dirigé par Robert Schuman, mais avec bien d'autres têtes. Je pense à Montpellierin, qui est Coste-Floré, qui va développer une vision plus sociale du discours de l'Église et donc accepter le principe de laïcité. Lorsqu'en 1945 puis 1946 est votée la nouvelle constitution, vous savez qu'il y a un premier projet en mai 1945 qui échoue, et puis un deuxième projet en octobre 1946 qui lui va prospérer, c'est la 4e République. Les partis de droite, représentés au moins par le MREP, sont d'accord pour inscrire la laïcité dans la constitution, entendu, il est vrai, comme une sorte de paix nécessaire, comme une sorte de mutuelle confiance entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais une partie de la droite, on pourrait dire la plus proche des républicains et puis d'une république sociale, n'est plus opposée à la laïcité. Mais le vieux fond de la vieille droite est quand même très nostalgique de la place que l'Église a perdue. Et on peut dire que dès que des difficultés apparaissent, eh bien, ce vieux clivage réapparaît. Et notamment à propos de l'affaire scolaire. Vous savez que l'affaire scolaire n'est pas réglée pendant la 4e République, avec des textes, le texte de la loi Barranger par exemple, qui est une sorte de demi-mesure pour permettre à l'Église de reprendre un peu quelques droits, mais finalement il faut attendre la 5e République et très tôt, la 5e République date de mai 58, la Constitution est de octobre 58, et c'est en 59 que la loi dite Debré est adoptée. Je dois dire un mot d'ailleurs sur cette loi qui concerne l'aide à l'école privée catholique, qui représente 98% des écoles privées. Le ministre de l'enseignement de l'époque démissionne. Il n'est pas d'accord avec ce subventionnement des églises de l'Église catholique à travers son réseau d'écoles. Et donc, c'est la raison pour laquelle M. Debré, qui est Premier ministre, va présenter au nom du gouvernement la loi qui portera son nom et qui est une loi qui prévoit que l'État républicain peut passer des contrats avec chacune des écoles privées catholiques ou non catholiques qui le désirent. Il y a trois types de situations, les écoles totalement libres qui font ce qu'elles veulent, les écoles avec un contrat atténué, puis les écoles avec un contrat plein. Et évidemment, quand on a le contrat plein, on a des avantages considérables. L'école privée catholique se situe à ce moment-là au même niveau qu'une école publique. Elle le peut parce qu'elle reçoit des subventions importantes. Et au fond, cette loi qui est considérée par les républicains et la gauche comme une trahison, avec le fameux serment de Vincennes prêté par des milliers de délégués des fins fonds des provinces qui se réunissent à Paris, à Vincennes, cette loi est le symbole d'une déchirure et qui fait que la droite, d'une certaine manière, a gagné une partie de la bataille en imposant l'idée que l'enseignement catholique devait être subventionné et devait avoir le même niveau, j'allais dire, de respectabilité de la, par la République que l'école publique. Et évidemment, tous les enseignants et la gauche unanime, des communistes jusqu'aux socialistes, est révulsée à l'idée qu'on est en train de subventionner une France séparatiste dont tout va montrer petit à petit qu'en effet, elle nourrit en son sein des classes sociales, une manière de concevoir peut-être la nation française qui n'est pas toujours très républicaine. Alors voilà où nous en sommes au moment où je vous parle de la Ve République, où la droite, évidemment, a une vieille tradition plutôt favorable à l'école privée catholique, et donc qui a accepté la laïcité, mais du bout des lèvres. Renversement complet de situation à partir du moment de cette fameuse affaire Creil, qui se développe en 1989 dans un collège où trois petites filles arrivent avec un voile sur la tête. Et très curieusement, cette affaire du collège de Creil, qui va empoisonner les relations entre le gouvernement et les partis politiques, entre éventuellement des forces plus ou moins bien contrôlées, va renouveler complètement le rapport que la droite entretient avec la laïcité. Voilà que très curieusement, la droite, qui se veut d'abord républicaine, va arguer de sa passion pour la République pour devenir laïque. Et le renversement, il est très net lorsqu'au début des années 90, on va voir une partie de la droite du RPR, le parti créé par Jacques Chirac, basculer du côté de la défense de la République et donc de la laïcité et se prétendre un fer de lance absolument incontournable du principe de laïcité. Le summum va être au début des années 2000, vous voyez qu'il faudra attendre 10 ans, lorsque le président de la République, Jacques Chirac, fait un discours extrêmement volontariste à la télévision pour dire pourquoi, après que la commission Stasi, qui avait été réunie, a statué en proposant de multiples réformes, dont une était l'interdiction des signes religieux à l'école, et s'appuyant sur cette commission Stasi pour montrer comment le parti majoritaire qui le soutient est le parti de la laïcité. Changement complet, la droite devient désormais une droite laïque, laissant, j'allais dire un peu sans voix, la gauche à qui on a volé finalement le thème qui depuis plus d'un siècle et demi l'avait structuré dans le paysage politique français. Alors, c'est assez étonnant puisque en 2000, au début des années 2000, la loi sur les signes religieux à l'école va être adoptée, ce qui brouille complètement les pistes puisque c'est une majorité conservatrice appuyée du bout des lèvres, évidemment, par la gauche qui ne peut pas dire le contraire, va donner naissance à cette loi qui désormais interdit aux élèves de manifester ostensiblement leur appartenance à une croyance. Et ce sera suivi un petit peu plus tard, mais c'est sous Sarkozy, par une loi qui n'est pas une loi de laïcité, mais que les gens confondent en 2010, qui est la loi sur la dissimulation du visage, et que tout le monde appelle la loi sur la burqa, bien que ça ne soit pas une loi de laïcité, mais une loi sur l'ordre public. Mais on voit bien qu'au début des années 2000, le terrain a changé d'allure et ceux qui étaient les fervents défenseurs depuis un siècle et demi de la place de l'Église, de l'autorité morale de l'Église catholique, sont devenus, ils n'ont pas cessé d'être catholiques, mais des fervents défenseurs désormais de la laïcité et même de manière quelquefois plus abrupte que ne l'avaient jamais fait les socialistes, voire même les communistes. Et il reste, cerise sur le gâteau, un autre événement qu'on n'avait pas pu prévoir, c'est que va basculer dans le camp de la laïcité l'extrême droite. Alors vraiment, là, c'est un changement considérable. Pendant tout le temps où l'extrême droite, représentée par le Front National, était dirigée par le vieux monsieur Le Pen, alors on en avait à satiété des références à la tradition chrétienne, des références à l'Église et les cérémonies devant la statue de Sainte Jeanne d'Arc et l'appel à des curés pour bénir un certain nombre de manifestations. Bref, on était dans le droit fil de la contre-révolution de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Donc l'extrême droite était pas simplement nationaliste, mais catholique. Et bien voilà qu'avec Madame Le Pen, les choses changent complètement. Et de manière très curieuse, au début des années 2000, Madame Le Pen va soutenir un discours laïque de référence à la République et à la laïcité. Pour quelle raison en réalité? Évidemment, ce n'est pas parce qu'elle s'est convertie tout d'un coup à la laïcité, c'est qu'à travers la laïcité, elle défend l'identité française. Or, l'identité française, elle se défend par rapport à qui? Mais par rapport à ceux qui ne sont pas français, entendez les musulmans qui arrivent des anciennes colonies ou qui arrivent de pays étrangers. Et donc, c'est avec le thème de la défense de la nation française, la défense de l'identité civilisationnelle française, que dans le lot est incluse la laïcité. La laïcité sert à dire « nous défendons notre société qui n'est pas une société liée à la religion, notamment musulmane, et on met un bémol sur le catholicisme. » Par exemple, quand on dit à Madame Le Pen « mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudra interdire tous les signes religieux dans la rue ?» Elle ne parle pas ni des soutanes, ni des cornettes des bonnes sœurs. Elle ne parle que de la kippa et du voile musulman, en disant « bon, on expliquera à nos amis, je ne savais pas qu'elle avait des amis juifs, qu'il faut ne pas mettre la kippa dans la rue, et puis à nos amis musulmans qu'il vaut mieux ne pas porter le voile. » Et on voit bien que la laïcité est extrêmement dirigée sur des populations particulières soupçonnées de ne pas être assez françaises. C'est un changement tellement radical qu'il pollue jusque, pas simplement la gauche, mais l'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche va se trouver prise au piège en voulant défendre les particularités que chacun a le droit de manifester du moment qu'il ne trouble pas l'ordre public, va défendre ce qu'on a appelé l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire au fond une identité qui a le droit d'exister et va se trouver sur des positions quelquefois intenables. D'où cette espèce de valse-hésitation entre la critique de ceux qui posent des bombes et puis le soutien à ceux qui veulent s'habiller différemment. On voit bien que le thème de la laïcité a été complètement bouleversé par ce changement politique que personne n'avait pu prévoir et qui fait que le clivage simple, qui était celui hérité du XIXe siècle, d'un côté les républicains, la gauche, les socialistes et les laïcs, de l'autre les anti-républicains, les nostalgiques de la monarchie, de l'ordre le plus étroit, le plus traditionnel, et évidemment le soutien à l'Église catholique et donc anti-laïque. Eh bien, la simplicité de ce découpage a complètement volé en éclat, de sorte que nos contemporains aujourd'hui ne comprennent pas grand-chose aux débats qui ont lieu. Alors, si vous voulez, c'est ce que nous allons voir à partir des fois prochaines. Bonne semaine!
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.